J'ai le plaisir de recevoir maintenant Alberto Ruy Sanchez, invité d'honneur du 20e festival Lettres d'automne. La thématique de ce festival qui se déroule à Montauban, en Tarn-et-Garonne et en Midi-Pyrénées, festival littéraire, donc ce thème c'est Éloge de l'ailleurs. Et vous n'y êtes pas pour rien, Alberto Ruy Sanchez, dans cette thématique. Bonjour.
Bonjour, heureux d'être ici avec toi.
Alors merci d'être là et puis de partager un moment avec nous autour de ce festival. Finalement, pendant 3 semaines, vous allez être présent là à Montauban. Hein.
Oui, c'est énorme cette fois.
Ouais. Et le travail pour vous a commencé il y a déjà bien longtemps, puisque avec Maurice Petit de l'association Confluence, il a fallu préparer, j'imagine, de façon très étroite, ce festival.
Si. Ouais. Il prend un an après l'invitation qu'ils font, un an pour mettre tout ensemble, mettre tout en forme. Oui, c'est un travail énorme.
Mmh. Quelle a été votre réaction quand Maurice Petit est venu à votre rencontre pour vous dire « Tiens, j'aimerais bien vous inviter pour la 20e édition du festival ?»
Bon, j'étais très flatté et très surpris, bien sûr. Je connaissais déjà Montauban. J'avais été l'invité de Alberto Manguel.
C'est en 2008 ou
2006. Ouais. J'étais immédiatement séduit par la ville. C'est une ville très accueillante. Mais aussi par le... Par ces deux côtés du festival qui prend beaucoup en considération les gens de la ville et comment la ville elle-même est transformée en un club de lecture. Les gens vraiment sont autour des auteurs, lisent les livres, font des commentaires et cette invention qu'ils ont fait de faire de la programmation, une espèce de... ensemble des renseignements sur l'œuvre d'un auteur. C'est formidable, vraiment, c'est unique. C'est d'une grande générosité envers le public. Et j'ai jamais vu ça ailleurs.
Ouais.
Alors j'étais vraiment très très surpris. Et il y a bien sûr des doutes, mais vous m'invitez comme invité principal ou pour avec quelqu'un d'autre. Nous disons non, on veut faire votre monde.
Ouais.
Alors il faut nous proposer une liste de personnes et des activités. Et alors là, c'était très dur parce que, bien sûr, comme éditeur aussi d'une revue d'art, et j'ai énormément de choses à proposer.
Il a fallu trier, là. Ouais.
Et avec ma femme, qui est historienne, et avec qui je co-édite la revue Artes de México, nous avons fait une liste en essayant de trouver ce qu'on appelle les algorithmes, c'est-à-dire les formules qui pouvaient être clés d'un ensemble d'activités et des invités. Alors pour moi, la clé des voûtes de tous ceux que c'est ma conception de la littérature et la conception que je partage avec d'autres artistes, pas seulement des écrivains, c'était un chaman, un indien, qui s'appelait, je parle en français parce que malheureusement il vient de mourir l'année dernière, il s'appelle José Benítez Sánchez. Et lui, c'est beaucoup plus qu'un artiste, beaucoup plus qu'un artisan, parce que c'est les deux choses à la fois, et en même temps un chaman. C'est-à-dire que ses tableaux sont vraiment des invocations pour lui, dans sa vie, faire chacun de ces tableaux que l'on montre maintenant au musée Ingres. C'est un risque, et c'est une invocation de Dieu, et en même temps l'apparition de Dieu. Ils sont animistes, c'est-à-dire ils sont des dieux un peu de tout, des dieux du vent, du bois. Et les tableaux, alors, ne sont pas les comptes rendus de quelque chose qu'il a vu pendant son hallucination et son rituel. C'est l'apparition même de Dieu, c'est l'acte. Et là, c'est une conception de ce qu'il fait que je partage, parce que je pense que la poésie n'est pas les comptes rendus d'un sentiment, c'est la production du sentiment même. Comme l'art abstrait, par exemple, comme Mark Rothko. Ces tableaux sont des actes d'émotion. C'est la production de l'émotion et pas une production de l'émotion parce que l'on raconte quelque chose d'autre.
Oui.
Et c'est pas du journalisme. Et alors tous les artistes qu'on verra participent de la même notion d'un rituel poétique.
De la fabrication du sentiment.
Oui, c'est là, chaque chaque lecture, chaque écrit, chaque séance, soit des danses, soit un concert, c'est vraiment un acte rituel par lequel on provoque l'apparition du poétique, de l'émerveillement.
Éloge de l'ailleurs, c'est le titre générique hein, de ce festival qui résume assez bien finalement de tout ce que vous venez de dire, Alberto Ruiz Sanchez. Le moment où vous avez réalisé vos premiers poèmes et le moment où vous avez refusé par deux fois le poste de ministre de la Culture au Mexique, il s'est passé du temps. Alors évidemment, on va pas avoir tout ce temps-là, mais j'aimerais quand même avoir les moments clés de votre vie, si vous voulez bien, Alberto Ruiz Sanchez. Enfant, vous écriviez des poèmes ?
Oui. Et j'écrivais, vous savez, au début, on ne sait pas qu'est-ce qu'on écrit. On ne pense pas à ce sont des poèmes, ce sont des romans, c'est un journal. On écrit parce qu'on a besoin d'écrire. Et après, petit à petit, on apprend à donner une forme artisanale à ce qu'on fait. Mais d'habitude, écrire, comme disait Roland Barthes, c'est un verbe intransitif. On écrit. Mmh. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que j'ai aimé écrire, j'ai commencé à vouloir être un écrivain, parce que je viens d'une famille du nord du Mexique, émigrée au centre du pays. C'est un pays énorme. Et toute cette famille qui peu à peu a commencé à se rassembler au centre, on s'est réunissait les dimanches ou deux fois par mois, et on racontait des histoires. C'est-à-dire pas seulement les grands-parents, les oncles. Si on sortait ensemble, on faisait du camping, par exemple, deux fois par an. Et quand on revenait, ou les soirs là, on racontait des histoires. Alors, je suis devenu écrivain parce que je mets le plaisir d'entendre des histoires et raconter des histoires. Ça, c'était le début de tout. Mais j'ai toujours su que j'allais pas vivre de la littérature, parce que au Mexique personne ne vit de la littérature. Ça, c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Et alors je suis devenu aussi spécialiste en communication, j'ai fait je suis devenu éditeur aussi. En fait je vis à la fois d'être éditeur et de faire des cours dans des universités, beaucoup des universités américaines surtout, et canadiennes.
Et des cours de littérature.
Des cours, des séminaires, des D'accord. conférences. Et alors, ce désir de devenir écrivain était aussi un défi artisanal. Il faut faire le mieux que l'on peut faire. Je fais des études à la ville de Mexico quand j'habitais un peu à l'extérieur. Alors pour moi tous les jours c'était un voyage. Et après quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai eu envie de voyager. J'avais déjà voyagé à l'intérieur du pays en faisant de l'autostop. Et à l'époque, devenir un hippie, c'était une manière de voyager sans argent. Alors j'ai beaucoup connu le pays, j'ai beaucoup connu tout mon pays. Mais je connaissais pas l'extérieur. En fait, j'avais 23 ans.
On est dans quelle année là ?
Et 74. Mmh. Et 75, j'allais avoir 24 ans et j'avais pas monté dans un avion. J'avais pas un passeport. Alors quand j'ai fini l'école, j'ai voulu faire des études postérieures avec une bourse en France. Et j'ai commencé à planifier comment les faire. Mais j'avais une fiancée, une fille que j'aimais beaucoup. On avait planifié de venir ensemble, mais elle s'est décidée, elle est venue avant. Alors je suis venu en France derrière elle. Quand on, beaucoup des années après, quand on m'a donné une décoration, j'ai dû dire à l'ambassadeur de France au Mexique qu'il fallait que je sois sincère. J'avais pas planifié d'aimer la France comme je l'aimais après. Je suis allé derrière une femme. Alors, je me considérais les premiers à recevoir une médaille parce que je suis allé derrière ma femme. Mais la médaille, c'était devait être pour elle parce que elle a la patience encore d'être avec moi. Et alors, on a fait ces voyages et on a découvert Paris. Et Paris, c'était déjà une ville très belle où l'on soigne l'apparence, l'esthétique, la dimension esthétique de la vie est très très soignée en comparaison avec notre ville modernisée au Mexique où on garde un bâtiment ancien et on détruit les restes. C'est une notion assez équivoque du patrimoine. Et bien sûr, ils construisent quelque chose surtout dans les années 60, 70, qui était absolument laid et que devient d'un bâtiment dispensable aussi. Alors tout devient semi-construit, semi-détruit. Alors on arrive dans une ville où l'on voit une certaine cohérence dans les bâtiments, dans la vie quotidienne. C'était déjà énorme. Et après, et bien sûr, il y a une qualité que l'on trouve en France, que l'on ne trouve pas ailleurs. Quand on aime la littérature, c'est en français que l'on trouve les plus de textes traduits de tout le monde. Vous savez, si vous allez aux États-Unis, seulement, dans tous les pays, seulement chaque année, les 3% de ce que l'on publie, est traduit. C'est-à-dire qu'ils sont complètement fermés vers l'extérieur, vers les cultures d'ailleurs. Et ici, c'est les 38%. C'est-à-dire que si l'on veut connaître la littérature japonaise, africaine, etc., l'endroit, c'est la France. Mmh.
Vous n'êtes pas énormément traduit, hein, parce que je crois que vous êtes un auteur très prolique, mais vous avez quoi? 6 livres, je crois, qui sont traduits.
Oui, j'ai eu d'abord une grande chance, c'est-à-dire j'ai commencé à être traduit quand il n'y avait presque pas de Mexicains traduits, il y avait Octavio Paz et Carlos Fuentes. Mais j'étais dans une maison des éditions qui était très active il y a 10 ans. Mais après, elle a été vendue 4 fois. Et après, je suis resté sans interlocuteur. Les contrats sont restés là. Et alors, j'étais vraiment coincé. Et alors c'était vraiment une mauvaise chance. Et les éditeurs, tout d'un coup, par exemple, c'était, à un certain moment, c'était Privat, à Toulouse. Alors, j'arrivais d'un voyage, j'ai demandé un rendez-vous avec mon éditeur, il me dit, non, l'éditeur ne vient qu'une fois par semaine, le vendredi après-midi. Bon, je prends rendez-vous. Non, mais le prochain rendez-vous, c'est dans 5 mois, parce que, en fait, il est en charge de la pharmaceutique. Alors, tu vois, c'est la folie des petites maisons des éditions qui sont achetées par les grandes. Et comme c'était un cycle, j'étais déjà là. En fait, les derniers volets du cycle de Mogador, c'est-à-dire parmi les livres qui sont traduits, il y a un cycle entamé qui n'a pas été fini.
Et les 3 livres, la peau de la terre, les visages de l'air.
Et les lèvres de l'eau. Et même 9 fois 9 choses que l'on dit de Mogador fait partie du même cycle. Il manque la main du feu. Mais je ne sais pas qui va le publier.
Et le traducteur, quelle relation vous avez avec lui?
Bon, lui, c'est pas seulement le traducteur, nous sommes devenus des amis après. Mais c'est lui qui a trouvé mes livres dans les paliers, dans son voisin des paliers, qui est un Mexicain. Alors il est allé chercher dans ses bouquins, il a tout pris plusieurs, et il a aimé les miens. Et il a commencé à les proposer aux éditeurs. C'est quelque chose aussi qui se passe en France, les traducteurs ont les rôles d'agents. C'est-à-dire, c'est lui qui propose.
Il a le coup de cœur et il propose.
Il propose. Et aussi, c'est vraiment ses coups de cœur. Les livres que les traducteurs aiment, c'est les livres que les éditeurs prennent quelquefois. Alors, mon traducteur, c'était vraiment quelqu'un qui commençait à traduire de la littérature mexicaine. Mais peu à peu, il est devenu le principal traducteur de la littérature mexicaine. Il est devenu le traducteur de Juan Rulfo, par exemple, que c'est le plus grand narrateur qu'il y a eu. Il est mort depuis longtemps. Mais c'est un auteur qui a publié son premier livre dans les années 50. et qui avait été mal traduit. En fait, c'est l'auteur de deux livres seulement. Le premier a été traduit par un archéologue qui ne savait pas beaucoup de littérature. Et le deuxième a été traduit par quelqu'un qui parlait pas l'espagnol. C'est-à-dire avec un dictionnaire. Alors, c'est comme un ouais. exercice d'oulipo.
C'est comme les traductions Google.
Oui, plus ou moins. Avec la, en prenant les pires des choix. Et alors, Gabriel Yacouli, qui est mon traducteur, il a repris le projet de traduire Rulfo, et il l'a fait merveilleusement, et ça a été un succès incroyable. Et il a traduit d'autres écrivains contemporains aussi, beaucoup, Jorge Volpi, qui va venir entre eux, et Sergio Pitol, beaucoup, beaucoup d'autres.
Alors, vous le disiez tout à l'heure en ouverture de cette émission, vous, ce que vous recherchez dans l'écriture, c'est avant tout de créer une émotion, de donner une émotion, et ça passe avant de raconter finalement une histoire, peu importe que l'histoire aille au bout, hein, quelque part, c'est l'instant de lecture qui est important.
Mais finalement, raconter une émotion donne raconter une histoire donne une émotion.
Oui.
C'est pas comme un roman policier.
Voilà, c'est pas comme un roman policier. On n'attend pas haletant la suite. On se pose pas la question de savoir voilà qui est le coupable ou veut nous emmener l'auteur.
Exactement. C'est la question du suspense qui est suspendue, mais pas complètement. Ouais. C'est-à-dire ce que j'aimerais, c'est que si les gens lisent une page, il puisse sentir qu'il sort avec quelque chose. Mais s'il lit tous les livres, il saura davantage.
Alors, où est-ce que naissent vos personnages, Alberto Ruiz Sanchez? Est-ce qu'ils naissent tous d'ailleurs au même endroit dans votre esprit?
Bon, j'ai plusieurs livres et ils naissent de différentes situations.
Par exemple, on va prendre Fatma.
Fatma, du visage de l'air.
Voilà. Qui reste le regard perdu sur la ligne d'horizon.
Oui, et il faut que je vous raconte que les personnages principaux dans ces cycles de livres, c'est pas Fatma qui est importante, mais c'est la ville de Mogador. Parce que j'étais séduit par elle, par la ville de Essaouira, que l'on continue à appeler Mogador aussi, ses citoyens. Il dit, je suis de Mogador, je suis Suiri, qui veut dire de Essaouira, mais je suis Suiri, je suis de Mogador. Et c'est une ville, d'abord, qui a été l'objet d'un très intense métissage, parce que les sultans qu'il a refondés dans le XVIIIe siècle a voulu faire de cette ville une ville très active des commerces. Alors, il a invité deux populations juives très fortes, une venant de l'Europe centrale, c'est-à-dire qu'ils étaient séfarades, et une autre qui venait de l'Europe du Nord, c'est-à-dire qu'ils étaient ashkenaz. Et il a invité de représentants de plusieurs pays européens, et même américain. En fait, la première représentation diplomatique des États-Unis a été faite à Mogador. C'est le premier endroit où les États-Unis ont eu un consulat. Pourquoi? Parce que le Maroc a été le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Et là, toutes ces représentations sont arrivées avec beaucoup de gens. Et on perçoit le haut et intense métissage dans la ville. Ça donne une beauté dans les gens, ça donne une variété, une disponibilité. Ça change.
Et par exemple, justement, cette Fatma, comment elle naît au milieu de ça?
Alors, Fatma, c'était une femme que je voyais sur les murailles, qui regardait sur la fenêtre l'horizon, le premier jour, le deuxième, le troisième. Et je commençais à demander aux gens qui est-elle, pourquoi est-ce qu'elle avait ces gestes aussi intenses, quelle était son histoire. J'aurais aimé que l'on me raconte son histoire. Et bien sûr, je pensais où les gens savent pas, où tout le monde sait. Mmh. Et Et en fait, tout le monde savait, mais ma surprise, c'était que tout le monde savait une histoire différente. Et tous étaient très sûrs de savoir l'histoire vraie. Et alors, j'ai dit, ça, c'est une figure dans les langages du désir, de mettre ses propres mots dans la bouche fermée de quelqu'un d'autre.
Et alors, finalement, vous l'inventez pas, elle existe. Vous contentez presque de la décrire avec vous aussi vos propres mots.
et oui, j'ai essayé de ne pas mettre mes propres mots, ouais, exactement, mais de montrer comment les autres font l'histoire. Et alors, j'ai commencé à chercher, j'ai découvert beaucoup de... Il y avait d'autres choses qui m'inquiétaient beaucoup et qui sont déjà dans les personnages de Fatma. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes au Maroc, puisque la rue appartient aux hommes? Qu'est-ce qu'ils font les femmes? Quels sont leur espace, leur monde? Et bien sûr, après, dans un livre où je raconte l'histoire d'une femme qui est amoureuse d'une autre, j'ai trouvé des étudiants qui font les doctorats quelquefois sur mes livres qui me disent « Mais ça n'existe pas, il n'y a pas l'amour entre femmes. » C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont complètement hors la réalité. Ils peuvent être le propriétaire de la rue, ils peuvent être le propriétaire de leur maison et de la ville, mais ils se rendent pas compte de ce qui se passe dans le monde des femmes. Absolument. Alors, je me commençais à me demander quels sont les espaces des femmes. Alors, un d'eux, c'est le hammam aussi. Mais l'autre, c'est la clandestinité. Et l'on trouve la clandestinité dans toute la littérature, pas par hasard. Même le Mille et une nuits commence par une histoire d'une clandestinité qui a été découverte. Et alors, j'ai commencé à faire une recherche. C'est-à-dire que mes livres, finalement, ce sont des livres documentaires, mais racontés dans une clé poétique. Mais tout ce que je raconte se passe.
Il y a aussi, alors il y a plusieurs choses. On a tellement peu de temps. On va peut-être faire une deuxième partie à cette émission d'ailleurs pour pouvoir aller au bout des questions que j'ai envie de vous poser. Donc il y a beaucoup de sensualité, Alberto Ruiz Sanchez, dans ce que vous écrivez, pour pas dire de sexualité même. Justement, c'est peut-être là aussi que naît l'émotion, ou en tout cas, elle passe souvent par là. Je pense à ce couple et à cet homme qui devient sa propre voix, ou uniquement, ça c'est dans la peau de la terre. Ces personnages-là, comment ils sont nés là aussi dans votre imagination?
Bon, une fois que... vous avez lu Les visages de l'air, si on l'a lu, si on ne les lit pas, on peut de toute manière commencer par n'importe quel livre, mais pour te raconter la naissance de personnages. Je pensais, une fois que j'avais écrit Les visages de l'air, on les ferme, on voit mon nom sur la couverture, et l'on pense que c'est moi qui l'ai écrit. Alors je dis, c'est pas exact. Alors il faut inventer un personnage qui soit l'auteur de ces livres-là. C'est-à-dire que les livres, pour le deuxième volet, les livres est devenu une partie de la fiction. Et je raconte l'histoire du personnage qui a écrit le premier livre aussi. Et à chaque fois, je fais ça. C'est-à-dire, j'invente des personnages qui racontent les histoires intérieures. Mais ça aide, parce que quand tu as tous les personnages au même niveau, c'est nécessaire de savoir les histoires des uns et des autres. Si tu les as l'un dans l'autre, c'est pas nécessaire de savoir l'histoire, puisque on marche déjà dans une autre voie. Et les premiers volets, c'est une recherche sur la nature du désir féminin. Je pose la question, je donne pas de réponse, je pose beaucoup de questions. Le deuxième volet, les lèvres de l'eau, c'est sur la question du désir masculin. Alors, le troisième volet, la peau de la terre, dont tu me poses la question, il s'agit de voir si un couple peut créer un paradis et vivre ensemble. Et une question qui m'est hantée déjà au moment où j'arrivais à écrire cette histoire, c'est comment est-ce que ça s'est passé que moi-même, avec mon couple, nous étions déjà ensemble plus de 10 ans. Et bien sûr, après 10 ans, l'érotisme n'est pas le même qu'au début. Mais quand elle est tombée enceinte, notre érotisme a vraiment augmenté. C'était une nouvelle dimension. Alors j'ai essayé de faire une recherche. Et j'ai commencé à demander aux femmes, demander à beaucoup de femmes de me raconter leur vie érotique pendant qu'elle était enceinte. Et je le faisais par la poste à l'époque et après par internet et quelquefois en personne. Et comme quand j'étais complètement lointain, on me racontait des histoires incroyables. Par exemple, j'ai découvert que quelquefois les femmes commencent à voir et à rêver d'avoir une relation hors le mariage quand elles sont enceintes, parce qu'elles deviennent si sensibles. Et quand les maris décident de s'éloigner complètement de la femme enceinte, parce qu'il a peur, parce que ça le dégoûte, parce qu'il ne sait pas quoi faire, les femmes commencent à rêver par son compte. Ce n'est pas la majorité des femmes. La majorité aussi, elles cassent la vie érotique. Mais il y a des femmes qui m'ont dit, c'est impossible de casser la vie érotique, puisque même l'eau a une saveur différente. Alors c'est pas seulement la vie érotique, c'est la vie érotique dans l'essence majeure, dans l'essence de la sensualité qui permet tout. Alors j'ai commencé à m'intéresser à la grande minorité de femmes. C'est les femmes qui décident d'éduquer les maris dans la nouvelle vie sensuelle dont elles ont besoin. J'ai trouvé une dizaine de cas seulement. Et alors, mais elle me racontait des choses incroyables. Et alors, je raconte l'histoire d'une femme qui envoie son mari découvrir les désirs intenses qui font les gens transformer leur espace pour créer des paradis. C'est-à-dire, ce sont des désirs pas nécessairement sexuels. Le désir transformateur du monde. Et elle pense, si lui, il apprend à lire les désirs du monde, il va apprendre à lire les désirs dans mon corps. C'est-à-dire, il deviendra un meilleur amant. Mais moi, je m'intéresse pas à ce qu'il devient un meilleur amant. Moi, comme narrateur, je m'intéresse à ce qu'il devient un bon raconteur des histoires. Oui. Comment est-ce qu'il va raconter ces histoires? Et alors, elle lui pose deux normes qu'il peut pas casser. D'abord, il peut pas inventer aucun désir. Il lui dit, tu vois, mais on va pas faire l'amour si tu ne viens pas chaque nuit me raconter un des jardins de Mogador. Mais ce sont des jardins figurés, les endroits transformés pour les gens à travers leurs désirs. C'est-à-dire tu n'as pas les droits à inventer rien. Et deuxième norme, tu dois inventer la manière de raconter l'histoire, c'est-à-dire un registre narratif, une manière de narrative qui soit propre au désir que tu vas me raconter. Au moment où j'écris ça, je dis, chut, il faut que que je m'adapte à ces normes-là. Il faut que je fasse une recherche si intense que tous les désirs que je raconte soient vrais et que je trouve une forme narrative propre à chacun des jardins. Alors, les personnages qui allaient raconter les jardins, au début, avaient un nom, une psychologie. Je lui ai enlevé tout. Il a même pas un nom. Alors, il est né comme une voix. J'ai laissé de lui simplement les désirs de convaincre sa femme d'avoir une nuit d'amour et de le désir de raconter les désirs des autres d'une manière séduisante. Et c'est comme ça que le personnage du narrateur est né.
Alberto Ruiz Sanchez, dans toute votre œuvre, il y a le 9 qui apparaît tout le temps, 9 fois 9.
9 fois 9 choses que l'on dit, ouais, des Mogador.
Voilà, c'est ça. Pourquoi ce chiffre 9
hein? Je me suis rendu compte, puisque je venais du nord du Mexique et j'ai vécu au centre, mais après j'ai migré encore au nord, qu'il n'y a pas une manière naturelle de raconter les choses, qu'il y a toujours une forme. C'est-à-dire, quand j'étais petit et j'allais au nord, j'avais l'accent des gens du centre. Et quand je venais du nord au centre, j'avais l'accent du nord. C'est-à-dire, j'avais toujours quelque chose d'autre dans la forme. Et quand on dit que les écrivains écrivent comme ils parlent, que ça soit la manière naturelle, moi, je trouvais, mais si l'on parle d'une manière ou d'une autre, c'est un choix finalement. Si l'on écrit, c'est pas un choix, c'est-à-dire c'est ce qu'on vit. Mais quand on écrit dans une forme, il y a un choix. Les peintres décident de quelle taille sera les tableaux qu'ils vont faire. Si les tableaux a une mesure d'un mètre par un mètre ou de 9 centimètres par 9 centimètres, c'est pas pareil. Les produits esthétiquement est différent. Alors je me suis dit, dans la littérature, c'est pareil. Si tu décides avoir un roman qui aura 400 pages ou qui aura 25 pages, c'est pas pareil. Il faut décider la forme. Pourquoi est-ce que les écrivains n'ont pas un contrôle sur le contour? Alors, quand j'ai commencé à faire ces cycles de livres sur le désir et sur Mogador, je décidais que la proportion que l'on peut multiplier, ça devait être quelque chose de décidé par moi. Alors, je suis allé chercher dans les formes disponibles et j'ai vu que les artisans de tuiles au Maroc ont la possibilité de combiner presque une centaine de formes différentes,
ouais.
Avec une formule sous-jacente basée dans le numéro 9. C'est-à-dire, c'est une décision de proportion esthétique. Et le 9 permet de faire des combinaisons de toutes les formes. Alors, pour avoir de la liberté et en même temps avoir une décision de mesure, je pris le 9.
C'est le lien entre les mathématiques et la poésie.
Oui, bien sûr. La toile a une mesure que l'on peut mesurer avec une règle. Et la poésie à l'intérieur, c'est une autre chose. Oui. Ça a ses propres règles. Mais les cahiers dans lesquels on l'écrit et on les présente a aussi à voir.
J'avais imaginé qu'il y avait quelque chose de plus mystique que ça dans ce neuf.
Bon, il y a pas vraiment quelque chose d'ésotérique, disons, dans l'essence le plus direct de mots. Mais c'est vrai qu'il y a déjà une conception de parcours. Une des choses dans laquelle on est éduqué quand on a mon âge, c'est-à-dire qu'on a grandi dans les années 70, c'est toute cette logique de Wilhelm Reich et la primauté de l'orgasme, l'orgasme comme le maximum que l'on peut atteindre dans la vie. Alors, c'est-à-dire, toute la vie devient une métaphore de l'orgasme. Avoir du succès, c'est escalader une montagne. La formule dramatique, c'est arriver au climax. C'est-à-dire, tout, l'orgasme, la représentation théâtrale, la vie, tout devient une métaphore de la même forme montagnarde, disons. Une progression vers un maximum. Et alors, le 9, c'est déjà les descentes d'une spirale. Et le spirale, c'est une forme mathématique dans laquelle il peut avoir un centre au milieu vers lequel on s'achemine et que l'on ne peut jamais arriver parce qu'il y aura toujours quelque chose de plus petit. Mais en même temps, dès qu'on entame le cercle, on est en train de toucher déjà le but. C'est-à-dire, le but est chaque pas. Parce que aussi le but peut être les cercles les plus grands. Dès que l'on trace la possibilité d'un cercle, on attend déjà les cercles. C'est-à-dire que on a l'ambiguïté, et plutôt que l'ambiguïté, la dualité de marcher vers quelque chose de lointain et déjà toucher le but pendant que l'on marche. Et moi, je pense que l'érotisme est comme ça et la vie est comme ça. Il faut avoir de succès chaque jour. Et tu peux penser à un succès qui est le ciel, peut-être, je ne sais pas. Mais il faut penser au chaque jour, c'est-à-dire donner de l'importance à l'instant. Et ça, c'est une notion de vie, une notion érotique et même une notion mystique, puisque c'est le mouvement aussi du mysticisme, de la spiritualité finalement. on chaque jour est à la fin. Chaque moment, chaque instant est à la fin. Alors, c'est vrai, il y a une notion spirituelle implicite qui donne du sens à toute la vie et à tous les gestes de la vie en même temps. Mais elle n'est pas liée à une religion nouvelle ou vieille.
Est-ce que on pourrait dire, Alberto Ruiz Sanchez, que vous êtes un écrivain impressionniste?
Oui et non. C'est-à-dire que j'établis la même relativité qui établissent les impressionnistes vis-à-vis de la réalité. C'est-à-dire que je crois que ce que l'on raconte devient de nouvelles réalités. Et les mêmes personnes peuvent voir la même chose d'une manière différente. Par exemple, dans ces recherches que j'ai fait avec des femmes pour savoir davantage sur leurs désirs, leur vie érotique, une fois, j'ai mis 5 amies ensemble. Des amies, elles étaient toutes des amies à moi. Elles se connaissaient pas entre elles. Et là, je leur ai demandé de me raconter quel avait été son meilleur amant et son pire. Sans dire le nom. Mais de me raconter pourquoi. Et alors, à un certain moment, je me suis rendu compte que les pires de l'une, c'était le meilleur de l'autre. Un majeur impressionnisme, on peut pas avoir. Parce qu'il n'y a pas telle chose comme un bon amant, tu vois. Ça dépend de tellement des facteurs. Quelquefois de la lumière du jour. Ou d'autres choses. Alors, ma littérature explore cette vision kaléidoscopique du désir et du monde. Et même chacun des volumes de mes livres sur Mogador, c'est comme un kaléidoscope, c'est comme un point de vue kaléidoscopique, c'est-à-dire que l'on voit peut-être la même chose, mais d'une manière complètement différente. Mais quelquefois, on se rend compte que l'on est en train de voir la même chose jusqu'à la fin. Mais en même temps, tout est basé sur du réel. C'est-à-dire, c'est vrai que ces 5 femmes-là avaient vécu d'une manière différente les rapports avec leur amant, même si la personne était la même. C'est-à-dire, c'est pas seulement subjectif, c'est objectif. C'est une réalité. Alors, la réalité du monde imaginé, du monde du désir, c'est quelque chose qui nous force quelquefois, qui nous donne envie de devenir quelqu'un d'autre, de nous déplacer, de vivre avec quelqu'un, d'avoir quelque chose d'autre. C'est pas quelque chose de matériel, c'est du désir. Mais quelquefois, c'est beaucoup plus important dans la vie des gens que la matérialité du bois, de la table sur laquelle on parle.
Alberto Ruiz Sanchez, vous avez refusé par 2 fois le poste de premier ministre, n'importe quoi, de ministre de la culture au Mexique. Pourquoi?
C'est une anecdote exagérée, mais on m'a offert un jour, mais une seule fois. Ah. c'est pas ma vocation, la politique. C'est-à-dire, je mène une vie politique, disons, comme citoyen, quand c'est nécessaire, j'élève la voix et je donne mon opinion, mais pas comme quelqu'un qui peut gérer la politique. Et alors, c'est chacun son métier. Mmh. Il y a énormément de choses que je peux pas faire ou que je dois pas avoir la tentation de croire que je peux faire. Et pour moi, c'était pas quelque chose d'attirant, ni quelque chose que j'aurais cru que serait utile pour les autres, ni pour moi.
Merci Alberto Ruiz Sanchez d'avoir répondu à ces quelques questions. Vous êtes à Montauban, en Tarn-et-Garonne, pour 3 semaines environ. Vous allez partir à la rencontre de vos lecteurs. C'est quelque chose, j'imagine, que vous appréciez, ça, de rencontrer les yeux dans les yeux les gens qui vous ont lu.
Oui, et que j'ai déjà eu l'expérience la première fois que je suis venu à Montauban. Alors, je suis très, très content de voir comment toute la ville devient une espèce de club de lecture. Et c'est vraiment encourageant pour un auteur. Et alors, donner beaucoup de monde à travers. On a une dizaine d'expositions ici qui ont à voir avec mes livres d'une manière ou d'une autre, ou qui ont à voir avec mon travail d'éditeur. Alors pour moi, ça c'est vraiment très très encourageant de pouvoir partager aussi tout ça.
Merci Alberto Ruiz Sanchez.
Merci à toi.